Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette conférence de fin de journée sur un thème qui est un thème porté aujourd'hui par le gouvernement et le secteur associatif que représente aujourd'hui la FEAP, mais qui est également porté par les départements à travers l'Assemblée des départements de France. Donc le sujet des SPASAD, les services polyvalents d'aide et de soins à domicile. Donc c'est un sujet qu'on traite déjà depuis un moment, dont on entend parler, les sujets de coordination des prestations d'aide et de soins à domicile, des prestations dites intégrées pour éviter les ruptures de parcours, pour faciliter l'accompagnement, pour faciliter un peu la vie des gens et de leurs aidants à domicile. Et donc on a souhaité cette année parler à nouveau de ce sujet qu'on avait déjà abordé l'année dernière à la FEAP dans le cadre de la Silver Economy, parce que cette année prend une acuité particulière puisqu'on le retrouve comme l'une des mesures phares du projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement. Donc on a choisi de réunir autour de nous Cathy Bontinck, qui représente donc la secrétaire d'État en charge de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie, Madame Laurence Rossignol, Jean-Pierre Hardy, qui est directeur délégué aux politiques sociales à l'Assemblée des départements de France, donc les deux grands acteurs institutionnels qui travaillent sur cette politique et qui également la financent, et puis avoir un éclairage plus terrain à travers Madame Desfontaines, qui représente, elle, donc un SPASAD qu'elle a créé avec d'autres opérateurs, et elle va nous en parler, à Lille, si je ne me trompe pas, voilà, en Nord-Pas-de-Calais, et qui travaille sur ce sujet d'un SPASAD un petit peu nouvelle génération, ou en tout cas un peu différent de celui qui était porté jusqu'à présent, auquel elle ajoute un deuxième P, qui est le P de prévention, dont elle nous parlera également. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Cathy Bontinck, qui va nous exposer dans un premier temps le positionnement du gouvernement. Donc, dans le cadre du projet de loi, quels sont un petit peu les travaux et ce qui est porté par le gouvernement, et quelque part, qu'est-ce que le gouvernement attend du secteur associatif, notamment dans le cadre du déploiement de cet article 34 sur les SPASAD.
Bonjour à toutes et à tous. Merci Adeline et puis merci à la FEAP d'avoir sollicité le secrétariat d'État pour cette intervention. Donc c'est vrai que normalement, en tant que conseiller, on ne sort pas beaucoup et on ne prend pas la parole sur les sujets. On ne parle pas à la place de la ministre. Simplement, elle a souhaité particulièrement, du fait de la sollicitation de la FEAP et de ce sujet particulier d'Espasa, d'accepter que je puisse venir à cette table ronde et donc pour pouvoir vous rappeler ou vous préciser le cap que Laurent Rossignol a fixé. Donc effectivement, le sujet des SPASAD, il est porté dans le projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement, plus particulièrement dans son article 34, et on pourra un petit peu y revenir. Mais l'idée aussi à retenir, c'est que il y a cet article et le fait qu'il porte une expérimentation, et puis il y a aussi le fait de donner un cap et de faire avancer les acteurs dès maintenant, puisque, et ça sera repris, les SPASAD ne sont pas une invention, ça sera sûrement largement redit, ils existent depuis 10 ans, et même si les structures estampillées officiellement SPASAD sont peu nombreuses, et que parfois on en a traduit, d'ailleurs selon moi à tort, que c'était un peu un échec de ce modèle parce qu'il n'y avait pas d'envol. Au final, il y a énormément de structures d'aide et de soins à domicile qui fonctionnent dans cette configuration de se rapprocher entre l'aide et le soin de façon plus ou moins intégrée en fonction de leur statut juridique, de leur réalité territoriale, mais qui sont déjà dans cette dynamique. Et donc, il n'y a pas non plus à se dire que c'est une révolution. Pour nous, c'est vraiment l'accompagnement quand même d'un processus qui est enclenché, mais peut-être en lui donnant à la fois plus de visibilité, parce que il y a besoin que le discours politique puisse porter de la cohérence, et puis surtout un peu de visibilité sur le temps, et puis surtout essayer de lever les freins. Et je pense que les deux interventions après moi viendront nourrir aussi cet aspect-là, comment on peut lever les freins. Donc le cap qui a été donné par Laurence Rossignol, il était de poser un timing. Hein. Alors on peut dire, elle a dit 5 ans, pourquoi pas 3 ans, pourquoi pas donner plus de temps. 5 ans nous paraissant une durée pour la transformation du secteur qui est à la fois assez rythmée, c'est vrai, mais qui laisse le temps de s'approprier. Donc 5 ans pour viser que l'ensemble des SIAD sur le territoire, dont on se dit les SIAD ont déjà un maillage territorial bien abouti, que l'ensemble de ces SIAD fonctionnent en configuration SPASA. Donc c'est les mots qu'elle a employés fin septembre pour fixer ce cap. Et c'est important cette notion de configuration SPASA, c'est-à-dire que bien sûr il y a le fait de vraiment rentrer dans le vrai SPASAD, le SAD et le SIAD qui fonctionnent comme un service. Et puis, il y a le fait de finalement de travailler à une plateforme de services entre l'aide et le soin à domicile qui pourra prendre, bien sûr, plein d'autres formes. Et c'est déjà une réalité sur le territoire. Et on sait aussi qu'il y a tout un mouvement de lien avec les EHPAD qui se crée. Comment les EHPAD demain pourront devenir aussi des lieux ressources pour animer et diffuser aussi des services à domicile. Donc, voilà, ce n'est pas une solution, la porte d'entrée SAD et SIAD parmi l'ensemble des dispositifs à domicile, mais c'est au moins le fait de se dire si sur ces deux services qui ont quand même, que ça soit dans leur projet de service, dans le sens de l'accompagnement, énormément de proximité de par les publics qu'ils accompagnent, si déjà ces deux services-là peuvent demain ne faire plus qu'un, la coopération avec le reste des acteurs, enfin, d'après nous, sera quand même largement facilitée. Donc ça c'est ce cap donné et ce timing un petit peu des 5 ans qui se concrétise donc dans un article de la loi ASV, donc l'article 34 tel qu'il a été voté donc en première lecture à l'Assemblée nationale le 17 septembre et qui d'une part donc effectivement inscrit une expérimentation, alors ce qui peut faire débat, hein, on a entendu, mais pourquoi encore une expérimentation? Il y a de l'existant, il y a déjà beaucoup de matière, et donc comment on peut-être avancer plus rapidement? Alors la justification de cette expérimentation, c'est d'une part parce que au moment de cette première lecture de la loi, mais le chemin parlementaire est encore là et encore ouvert, hein, donc je parle en ce moment à l'issue d'une première lecture, ça veut dire qu'il y a encore de l'espace. On n'a pas encore, d'une part, atterri sur toute la partie de refondation de l'aide à domicile, et qui veut dire demain des SPASAD qui fonctionnent bien veut dire qu'on a pu avancer aussi sur cette partie. Donc là-dessus, ce n'est pas l'objet de la table ronde aujourd'hui, mais il y a un certain nombre de travaux qu'on mène d'ailleurs avec l'ADF pour faire avancer le volet aide à domicile. Sur la meilleure appréhension de la partie soins, vous savez qu'il y a des travaux aussi sur la tarification des SIAD qui n'ont pas non plus abouti et pour lesquels il faudra encore concerter et travailler. Mais donc, voilà, on avait envie d'inscrire une expérimentation pour ces raisons, mais toutefois de la mettre vraiment rythmée dans le temps. Et donc le projet de loi, d'une part, dit que c'est 2 ans maximum à l'issue de l'entrée en vigueur de la loi, et avec d'ailleurs un rapport d'expérimentation, un rapport d'évaluation qui devra être rendu en septembre 2016, donc là aussi de façon assez rythmée. Cet article 34, il porte aussi une évolution importante et qui d'ailleurs a été apportée lors de cette première lecture et qui est un peu un début de réponse à cette question du financement de la prévention, dont on sait que c'est un vrai sujet pour réussir l'ambition des SPASAD, puisque si on continue à dire c'est finalement un service d'aide, un service de soins qui mutualise juste leur accueil téléphonique et leur fonction support, comme d'ailleurs ce qui est fait dans énormément de structures, on n'aura pas finalement du tout travaillé l'accompagnement des personnes. On aura finalement travaillé de la mutualisation comme ça se fait dans énormément de structures. Et donc, une évolution importante, c'est cette fameuse conférence des financeurs qui est aussi une nouveauté qui sera apportée par la loi d'adaptation de la société au vieillissement et qui coordonnera et financera des programmes de prévention et de solvabilisation des aides techniques à hauteur de 140 millions d'euros par an. Alors, ce qui n'est pas une enveloppe non plus énorme et qui n'a pas vocation à financer que les SPASAD, puisque plusieurs structures pourront solliciter les financements de cette conférence des financeurs. Toutefois, on a rendu les SPASAD éligibles à ces fonds de la conférence des financeurs, ce qui ne sera pas le cas, en tout cas en l'état actuel du texte, des SAD ou des SIAD pris individuellement. C'est-à-dire que c'est vraiment un ticket d'entrée aux SPASAD pour bénéficier de ces crédits. Donc une première réponse. Et puis la question de l'articulation budget d'aide, budget de soins, budget de prévention, qui effectivement en l'état actuel reste encore assez cloisonnée, et je sais que ça fait partie de beaucoup d'interrogations. L'encadrement de ces budgets se fera par un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Donc enfin, on va dire utilisation d'un outil qui a fait ses preuves et d'un outil classique qu'on positionne là aussi dans le SPASAD. Donc ça, on va dire, c'est la loi, ce que dit l'article 34 et puis le cap fixé par Laurence Rossignol. On sait qu'il y a le quotidien maintenant qui se déroule, des structures qui s'interrogent sur le fait d'y aller, de pas y aller. Les difficultés de l'aide à domicile peuvent créer des doutes dans un certain nombre de rapprochements en se disant oui, on sait que stratégiquement et sur le sens de l'action, c'est le bon choix, mais il y a des réalités et est-ce qu'on ne prend pas trop de risques. C'est pour ça que c'était important pour nous de dire il faut essayer d'avancer dès maintenant sur cette évolution en SPASAD, même d'ailleurs avec l'autorisation SPASAD telle qu'elle existe actuellement, c'est-à-dire de ne pas attendre le SPASAD de nouvelle génération, comme on l'a appelé, parce que toutes les autorisations SPASAD qui seront, d'une part celles qui existent actuellement et celles qui seront obtenues dans les prochains mois, toutes ces structures-là auront naturellement vocation, et nous, c'est vraiment un souhait de notre part, à basculer dans les nouveaux SPASAD et du coup, derrière aussi, de bénéficier notamment des crédits de la conférence des financeurs. Donc on essaie, nous, parce qu'on sait qu'il y a parfois des gestionnaires qui sont bien volontaires pour avoir cette autorisation SPASAD, mais ils sont confrontés à des refus soit de l'ARS, soit du Conseil Général, soit des deux, et donc c'est pas eux qui vont signer l'autorisation conjointe, et donc on essaie vraiment la ministre a mobilisé les DG d'ARS pour les inciter à rentrer dans ce dispositif. J'étais à l'ARS Aquitaine cette semaine parce qu'on essaie vraiment aussi au ministère de prendre notre bâton de pèlerin pour aller discuter du dispositif, et on sent vraiment qu'il y a des ouvertures, et les freins qu'on pouvait vraiment entendre comme étant avant mais il ne faut pas que l'assurance maladie paye pour l'aide, etc. Enfin, ce qui ressortait comme étant, on ne veut même pas regarder parce que par principe, on ne le sent pas, est en train, en tout cas, de changer. Et c'est bien ça le sens d'une impulsion politique. Donc ça, en tout cas, c'est ce qu'on mène. Et puis, il va y avoir tout le travail du cahier des charges. Et là, on attend beaucoup, justement, des contributions des structures qui fonctionnent déjà en SPASAD, de la FEAP et des autres acteurs du domicile pour ce cahier des charges. Et donc, la ministre l'a dit, quel que soit le calendrier d'adoption de la loi, elle veut que ce cahier des charges soit prêt après, et donc que la concertation s'engage dès le début d'année 2015 pour établir ce cahier des charges. Il y aura des questions lourdes à traiter dedans, puisque, alors, comme toujours, on dit qu'il faut que ça soit assez précis pour être un cahier des charges, et il faut que ça soit assez souple pour permettre aux différentes formes de coopération de s'inscrire dedans. Donc, il y aura des choix à faire. Il y aura des questions de fond comme est-ce qu'il y a une taille critique en partie aide, en partie soin, en projet de prévention à définir pour être éligible à ce SPASAD de nouvelle génération. Comment on règle la question des zones d'intervention, c'est-à-dire on sait que ça pose souvent problème. Est-ce qu'il faut que la zone d'intervention de l'aide et du soin soit exactement la même pour que on puisse avoir cette labellisation. Voilà, donc ce sont toutes ces questions. Bien sûr, la question des compétences des professionnels. Est-ce qu'à un moment donné, même si on sait que ce sont des sujets très lourds, la question des référentiels de compétences de chacun bouge pour s'adapter à cette nouvel accompagnement. La place des professionnels libéraux dans le dispositif. Enfin, voilà, toutes les questions qui se posent déjà aux acteurs du domicile actuellement, mais peut-être avec un regard plus intégré. Donc voilà l'heure d'aujourd'hui où nous en sommes au niveau du secrétariat d'État. Merci.
Merci beaucoup. Donc on voit que les choses avancent et avancent vite. Alors nous, on est assez contents, et je pense que l'ADF aussi, puisque c'est vrai que c'est un travail qu'on porte avec l'ADF depuis maintenant 2 ans. Sur le cahier des charges, on est aussi prêts. Anne-Cécile Desfontaines participe à notre groupe de travail et on a également élaboré un projet de cahier des charges qu'on a bientôt finalisé et qu'on sera prêt effectivement à partager dans le cadre du groupe de travail qui va se mettre en place, on l'espère, dans les premiers jours du mois de janvier. Donc, au niveau des départements, donc c'est aussi un dispositif que l'ADF pousse et porte et accompagne massivement, en marge également de la refondation de l'aide à domicile, mais les choses, on l'a bien vu, vont ensemble. Alors, au niveau des départements, quelle est un petit peu la réaction sur cet article 34 ? Quel est le coup d'après, puisque comme Cathy Bontinck l'a dit, les choses peuvent encore bouger, on n'est que sur une première lecture et le travail parlementaire continue. Et puis comment effectivement on pourrait envisager ce SPASAD de deuxième génération au niveau des territoires, un peu en réaction à ce qu'a dit Cathy Bontinck.
Donc effectivement l'ADF s'est prononcé pour SPASAD avec 2 P, donc on va un peu épeler. D'abord, on était sur les SAD, CA2AD, Services d'aide et d'accompagnement à domicile, dans le cadre d'un projet de refondation, puisque en 2010, en plus je venais juste d'arriver à l'ADF, il y a eu cette rencontre avec les fédérations d'aide à domicile, selon la crise de l'aide à domicile, et donc on a mis en place un groupe de travail pour réfléchir comment réagir à situation et quel type de refondation, c'est pas pour le plaisir des mots, refondation, c'est qu'on ne traitait pas simplement des questions tarifaires, mais des questions aussi d'organisation de l'aide à domicile. Donc on est arrivé à la conclusion, effectivement, que le tarif horaire c'était un piège, puisque ça poussait les gens à ne pas faire les plans d'aide ou à réduire les plans d'aide, et donc il fallait passer, pour résumer brièvement nos propositions communes ADF, principale fédération de l'aide à domicile, à un forfait global, donc passer une logique de forfait global financé par l'APA à domicile, avec des modes de calcul dont on verra à la fois tenir compte du GIR moyen pondéré, la file active de la personne, un problème aussi sur le handicap sur lequel il y a des travaux en ce moment qui viennent de me remonter aujourd'hui où certains ont travaillé des équivalents PCH à part quoi. Donc, donc il y a des gens qui phosphorent aussi dans la logique de simplification, c'est-à-dire un forfait global, une télégestion pour vérifier l'effectivité de l'aide globalement, si de fait on mandate un service sur un territoire pour faire 100 000 heures, c'est s'assurer effectivement que ces 100 000 heures globalement sont faites, même si on a des marges d'incertitude qu'on accepte de 5 à 10% selon les expérimentations en cours aujourd'hui, et que ces 100 000 heures sont la somme de plans d'aide qui dépendent d'ailleurs du GIR moyen pondéré. Si les gens sont très dépendants, il y aura moins de personnes pour faire le même nombre d'heures, on le fait avec moins de personnes que si toutes les personnes sont plutôt GIR 4. Donc on est bien sur la télégestion et vérifier que les plans d'aide individuels aussi, dans une marge de capitalisation, puisqu'on est sur un plan d'aide sur une période d'un an, et on peut dire quelqu'un qui a 40 heures, peut-être certains mois ça sera 35, les mois suivants ça sera 40, notamment s'il y a des sorties d'hospitalisation, peut-être que ça sera 0 pendant, ou 20 selon la durée d'hospitalisation. Donc on est vraiment sur cette logique de globalisation, ce qui ne veut pas dire que certains ont craint qu'on laissait les choses filer. La peur du forfait global ou des dispositifs globaux, c'est qu'on y voit plus clair. Le dispositif de télégestion permet à la fois de s'assurer de l'effectivité globale et de l'effectivité particulière, même si on souhaite cette souplesse. D'où l'idée de mandater, parce qu'on a quand même un débat dans ce secteur entre l'agréé et l'autorisé. Nous, on sort de cette querelle agréé-autorisé. On peut très bien prendre position les uns les autres. On a tous pris position pour ou contre un système ou faire passer tout le monde dans l'un ou tout le monde dans l'autre. Même les inspections générales ont changé d'avis à plusieurs reprises. À certains moments, ils faisaient des rapports en disant qu'il faut tout passer d'un côté. Tout ça n'est pas... Nous, on est plutôt sur une logique de contractualisation et de mandatement. À partir du moment où on mandate le Conseil général sur un territoire, un nombre d'heures, un type de prise en charge, on s'est aperçu qu'il ne fallait pas en rester à des heures, pour parler brutalement d'aide ménagère, même si maintenant c'est des aides à domicile et des aides à la vie quotidienne, pour passer effectivement à des logiques de mission d'intérêt général. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'il y a besoin de faire de la prévention. Il y a peut-être aussi sur les aides techniques, aménagement de logement, peut-être c'est le service. Alors peut-être avec la masse critique que nous avons bien évidemment en tête, que les fédérations l'ont, mais ne peuvent pas forcément dire brutalement par rapport à les adhérents qui disent « je suis adhérent, mais est-ce qu'on est en train de dire « je suis plus sur la photo ?» Donc ça me déplaît un peu. On voit bien qu'on a besoin d'un service assez pointu. Si on s'aperçoit que la personne a un logement inadapté, c'est pas du jour au lendemain qu'on va dire à la personne on fait un diagnostic, votre chambre elle est au nord, il faut la mettre au sud parce que elle est mal isolée, et vous allez prendre la chambre de vos enfants, plus ils viennent vous faire deux fois par an. Donc non, on sait très bien qu'il y a une culture, on est dans des données quasiment ethnologiques, anthropologiques, l'attachement à son logement, à ses meubles, à son tapis sur lequel on risque de se casser la figure si on devient plus dépendant, et que bien on a besoin de mission intérieure générale ou un ergothérapeute qu'on peut financer forfaitairement hors le tarif forfait global, mais qui donne une idée du tarif horaire en divisant par les heures. On voit bien qu'il y a des missions comme ça où on peut financer au titre de la prévention. Alors, est-ce que c'est la prévention ARS? Est-ce que c'est la prévention APA? Donc, si c'est un forfait global, on peut mettre dans le forfait global la partie hors ticket modérateur, plus des missions d'intérêt général. Où là, donc, on s'est intéressé, si on regarde ce passage, au P avant des soins. On dit qu'est-ce qu'on fait? Enfin, dans des décompositions, nous, c'était aide à domicile, APA en établissement, et au P en termes de prévention. L'articulation avec la caisse, les CARSACT ou la Caisse nationale d'assurance, parce qu'ils s'occupent du GIR 5-6, plus sur des questions de prévention et d'isolement social. L'exemple type, c'est quelqu'un, c'est les 5-6, il est censé ne pas être dépendant. Je dirais un point de vue organique, si je veux utiliser des gros mots, mais qui est dépendant socialement. C'est l'exemple type, c'est le veuf, effectivement, qui a été un travailleur actif ou un cadre actif, qui est devenu un retraité actif, golf, voyage, etc. Mais si son épouse décède avant lui, il ne sait pas se faire cuire un œuf. Alors lui dire allez vous faire cuire un œuf, on est obligé peut-être de voir quel type de plan d'aide, quel type de panier, d'accompagnement, etc. Et donc, et de fait, on a travaillé avec la CNAF qui était intéressée à sortir de son tarif horaire, notamment avec Albert Lotman, pour passer à une panier de services plutôt forfaitaires. Et donc, une bonne nouvelle, c'est qu'elle vient de sortir une grille Fragir qui analyse les fragilités. Et on en détermine en fonction des fragilités, donc c'est une grille psychotechnique, je ne vais pas rentrer dans le détail, qu'on avait beaucoup encouragé, sur lequel on a dit, si vous la sortez et qu'il y a une rigueur scientifique, ils l'ont fait avec des universités et des pôles géantérologiques qui donnent une garantie scientifique, sinon on a des partenaires qui nous disent tout ça est du bricolage tableur Excel d'administratifs incompétents, pléonasme pour d'autres. Donc effectivement, c'était de dire, on a une grille fragile, et notre volonté qui était de faire le forfait soins mix entre l'entourage moyen pondéré, on avait fait un truc très simple, est-ce que l'entourage est aidant, pas aidant, est-ce qu'il est présent mais pas aidant, parce qu'on peut très bien effectivement dire à une personne, pour le plan d'aide, on ne le renforce pas, parce que vous avez votre fille et votre belle-fille, parce que les aidants sont des aidantes qui ne sont pas éloignées, mais s'ils ne sont pas éloignés, qu'ils n'ont pas envie de faire certains actes, ou si on peut, à 85 ans, avoir des aidants potentiels pas très éloignés, mais si on est fâché depuis 30 ans, on n'est pas obligé de se réconcilier quand on devient dépendant. Donc on a effectivement l'EP, on commence à le travailler, on dit, mais avec les ARS, arrêtons de nous battre, qui finance quoi, par rapport à votre FIR, Fonds des Entités Régionales, ou les crédits de prévention, on pourrait se mettre d'accord dans une convention de vous financer un poste de psychologue ou un poste d'ergothérapeute. Ça s'expérimente en ce moment, c'est-à-dire qu'on a bien dans les Côtes d'Armor, c'est même un seul service, en plus c'est l'APF, qui a recruté des conseillers en économie sociale et familiale, pas pour simplement l'APF, mais aussi pour les autres services, en disant c'est des missions d'intérêt général, c'est des interventions ponctuelles, on ne va pas en mettre une fraction dans le tarif horaire, surtout qu'on passe au forfait global. Donc on s'est intéressé au P. Hein, et maintenant, effectivement, certains ont dit, oui, mais il y a aussi le soin. Alors le soin, bien, on est dans le care et dans le cure. Et on s'est dit, mais avec notre modèle, qui est un forfait global majoré de missions d'intérêt général, du type un poste chargé d'ergothérapeute pour un SAD qui fait 100 000 heures ou un psychologue pour accompagner aussi les aidants, etc. Et si demain en plus c'est éligible aux 140 millions d'euros, donc c'est pour ça qu'on pense que ça doit être aussi au SAD, CEPOMISÉ et aux SPASAD expérimentaux, ce qui reviendrait, ça peut être intéressant, et peut-être que l'ARS aussi a plutôt intérêt aussi à travailler avec nous sur la prévention et le soin, parce qu'il y a quand même les sorties d'hospitalisation. Si on veut se passer le mistigris en disant bah, c'est très bien, la personne âgée, grâce à un service d'aide à domicile qui peut envoyer plan d'aide renforcé et du professionnel qui va dire bah, là, vous avez vu, vous avez été hospitalisé, c'est peut-être le moment d'aménager votre salle de bain, parce que sinon, rendez-vous dans 6 mois et peut-être que l'hospitalisation sera un peu plus longue. Et rendez-vous au retour avec des escarces et peut-être même vous n'allez pas pouvoir rentrer parce qu'on a fait les aménagements. Donc c'est cet esprit-là qui faisait qu'avec les ARS, et on s'est dit avec la réforme des SIAD, même indépendamment du débat, j'ai connu dans une autre vie administrative, mais je ne reviendrai pas sur les lieux du crime, quoi. Donc effectivement, c'est de dire avec un forfait SIAD, soins, plus... puisqu'il y avait une espèce de mixage de la logique. Et là, on mutualise éventuellement les services, sans mutualiser pour le prisonnier. Là, peut-être qu'on aura un directeur commun, on aura du personnel commun. Et donc là, effectivement, donc, voilà pourquoi nous, on est passé de la refondation des SAID, qui était une mission politique des conseillers généraux, en disant « faites quelque chose, puisqu'il y en a d'autres qui ne font rien, donc faites quelque chose ». Et on est passé à la prévention, la prévention primaire, secondaire, tertiaire, et on s'est dit, on y ajoute le soin. Voilà notre démarche, quoi. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas le SPASAD avec les 2P, sachant qu'on a plutôt mis la prévention avant de mettre le soin. Mais effectivement, le soin, on voit bien que ça peut être, et avec une réflexion sans doute à mener sur l'évolution des métiers, et d'ailleurs, ça peut être la justification des différences tarifaires et des différences de traitement faits entre les SPASAD ou les SAD qu'on appelle nous CEPOM conventionnés et les services agréés, parce qu'on leur demande autre chose. On va demander demain aux aides à domicile d'être des vigies, de dire là je sens que la personne, elle m'a dit qu'elle s'est cassée la figure hier parce que je suis arrivé, elle m'a dit c'est pas grave, elle est remontée. Oui, mais là c'est peut-être le moment de réintervenir, de refaire passer l'ergothérapeute qui ne doit pas être une... brut, disant, voilà, c'est pas compliqué, il faut enlever 3 escaliers, etc. On sait très bien que les personnes âgées n'aiment pas qu'on fasse de plâtre chez elles. D'où les aides techniques sur lesquelles on a travaillé un certain département, où tout est pensé pour pas mettre de fil, pas mettre de plâtre, il faut coller des choses. Alors, problème, il faut vérifier que les piles marchent. Donc, on voit bien qu'on peut changer le métier d'aide à domicile et en faire une vraie vigie qui peut justifier après tous les traitements statutaires sur lesquels on est bloqué. Donc, voilà un peu notre cheminement. En tant qu'ADF, on est parti sur un truc assez restreint, comment sauver l'aide à domicile, sortir du tarif horaire, en disant, mais attendez, dans la construction budgétaire, et pas seulement budgétaire, en termes d'organisation de fonctionnement, il n'y a pas que la boîte aide à la vie quotidienne, il y a aussi la prévention, la forfaitisation de missions, etc., qu'on ne peut pas mettre sur des tarifs horaires, et ça justifie l'idée qu'on a de ces pommes valant mandatement. Parce que quand on mandate sur ça, on sort de la logique pourquoi une concurrence par les tarifs et tarifs horaires. Donc voilà. Alors sur l'expérimentation, nous on est assez réticents parce que, d'une part, on est dans l'expérimentation SAD, je suis désolé de le dire, mais bon, elle dure depuis des années, elle doit s'arrêter. On devrait arrêter d'ailleurs au 1er janvier 2015. Alors on n'arrêtera pas. Mais on devait avoir une évaluation. C'est-à-dire l'expérimentation, c'est la vraie. C'est on expérimente, on évalue et on arrête. Et donc l'expérimentation, il y a quelques, disons, volontaires qui y vont en disant attendez, on va attendre que les autres y vont pour peu qu'on nous dise qu'il ne faut pas y aller comme ça. Donc pourquoi mettre en place des dispositifs, de la télégestion, de ceci, cela, et on va nous dire en 3 ans que votre expérimentation, il y a des points forts. Donc on sait très bien que l'expérimentation. Donc on est plutôt, nous, dans une logique qu'on a peu parlé récemment d'eau formative. On y va et on rend des rapports tous les 3 ans pour modifier. C'est ce qu'on a fait dans d'autres réformes que j'ai connues dans d'autres villes, les EHPAD. On n'est pas passé dans un mouvement d'essuie-glace au 1er janvier 2000 et là en le frappant en 2016-2017, où tout le monde passe dans un système. On est bien dans une logique de négociation, contractualisation. Le champ qui est rentré, on évalue ce qui est fait, on modifie les textes ou les conventions, les cahiers des charges, mais plutôt que d'être dans les... En plus, il y a un contexte politique qu'il faut être très clair pour l'ADF. Il va se passer des élections en mars 2015. On aura... Évidemment, une nouvelle ADF, ne serait-ce que sociologiquement et en termes de genre, puisque l'ADF a défendu un scrutin binominal, un homme, une femme, donc il y aura un rajeunissement des élus et une féminisation, mais ça a été voulu par l'ADF, et donc ces élus-là, va voir qu'ils se réapproprient le tout. Et sans doute aussi des évolutions politiques, où on voit mal des départements se lancer en mars, parce que bon, ils vont pas le faire aujourd'hui, parce que ils vont pas dire, on va pas laisser la chose, c'est à la nouvelle équipe, quelle qu'elle soit, de prendre ça en main. Et après, la nouvelle équipe va falloir qu'elle se réapproprie ça. Donc on n'est pas sûr que l'année 2015... Donc voilà pourquoi nous, on est plutôt en train de dire, dans nos amendements qui reprennent ce qu'on avait fait avec la FEAP, allons-y, hein, allons-y, en prévoyant un rapport d'évaluation au Parlement de façon à ajuster le tir. On ne grave pas dans le marbre ce qu'on mettra dans la loi et dans les textes. En plus, si on envoie des textes en décret en D, sans être trop technique, ça permettra, ou des arrêtés, ça permettra d'éviter de... Donc voilà, c'est pour ça qu'on craint, objectivement, attention, des gens hésiteront de se lancer dans l'expérimentation, s'ils en ont beaucoup. Moi, je ne suis pas monomaniaque SAD. Il y a d'autres trucs sur l'expérimentation. C'est l'idée à la mode, l'expérimentation. D'autant plus qu'on la trouve un peu saumâtre, c'est-à-dire qu'on est dans 20 maps, dans d'autres sujets, on nous fait un truc, une map, 3 départements, 3 mois, et généralisation. Et là, on nous dit, attention, c'est du sérieux, ça va durer quelques années, 3 ans, 5 ans. Donc voilà un peu pourquoi nous, on souhaite, et on proposera des amendements, il faudrait qu'on en débatte à un moment sérieusement, à la fois techniquement, mais aussi politiquement. Sinon, effectivement, on risque d'avoir ces difficultés-là. Donc, en plus, bon, on est bien dans... on ne sera pas dans une généralisation. On n'est pas dans un mouvement où tout le monde a passé. Parce que si on, y compris dans le cahier des charges, et je le pense, on est plutôt à avoir un SAD qui fait 100 000 heures, un SIAD. On ne va pas faire ça avec des microservices, y compris pour... Et donc, bon, il n'y a aucun risque. Et d'autant plus qu'on le sait très bien aussi, soyons pas hypocrites, s'il y a une expérimentation sur 10 départements, une cinquantaine de SPASAD, on ne pourra pas dire on arrête. Donc autant dire, on se dirige vers ça, mais de façon contractualisée, raisonnable, plutôt que d'être dans le mythe, on va faire une grande expérimentation, on arrête tout, on mesure. Voilà.
Merci. Au moins, le projet de loi expérimentation ou pas a l'intérêt, en tout cas, de mettre ce travail un peu sur l'ouvrage et puis de nous obliger à nous interroger et à y travailler. Alors, Cathy, peut-être je te laisserai la parole, peut-être reprendre à la fin, mais Anne-Cécile Desfontaines, donc vous êtes directrice générale de Doma Santé. Vous avez, donc en région Nord-Pas-de-Calais, monté un SPASAD qui a un format intéressant puisque juridiquement, il est porté par un groupement de coopération sociale et médico-sociale et il illustre bien cette capacité qu'ont des opérateurs sur un territoire à mettre en commun leurs ressources, à travailler ensemble et à coordonner puisque vous êtes plusieurs associations à vous être associées dans ce projet et dans ce travail. Donc, ce qui est intéressant à travers votre exemple, c'est de nous montrer un petit peu comment vous avez travaillé le SPASAD, puisque comme l'a dit Cathy Montinck, ça n'est pas nouveau. Ça fait 10 ans que ça existe. Et justement, on voulait montrer, nous à la FEAP, on attache une importance particulière à montrer que les choses existent. Et on rejoint l'analyse de l'ADF qui est de pas trop forcément aller d'expérimentation en expérimentation, mais d'y aller franchement, puisqu'on a des gens qui savent faire et qui font bien. Donc vous allez nous expliquer un peu quel est votre travail, comment vous avez construit ce SPASAD Et puis, quels sont les freins et les leviers, finalement, que vous avez pu observer? Et puis, nous dire peut-être aussi, en conclusion, quelles sont vos attentes sur ce cahier des charges Spassad et ce Spassad, comme on dit, nouvelle génération, deuxième génération, enfin bon, quelle que soit la façon dont on l'appelle.
Bonjour à tous et à toutes. Donc, le Spassad de ma santé, une innovation dans la prise en charge globale de la personne dépendante à domicile. Alors, une innovation, puisque c'est une offre de service globale qui se veut assurer un maintien à domicile. Donc, c'est un Spassad avec deux P. Alors, pourquoi? Parce que cette offre de service assure de façon coordonnée différentes missions et on a donc la mission de l'équipe spécialisée prévention et réadaptation à domicile. Pour l'aide, on a l'émission d'un service d'aide à domicile pour les aides à la personne, les aides domestiques, et l'émission du service de soins avec les soins de nursing et soins infirmiers, et également une équipe spécialisée à Alzheimer. En dessous, vous voyez les trois partenaires qui permettent d'apporter cette mission et cette offre de service globale. Donc, comment le montage a été constitué? C'est en fait trois membres fondateurs qui ont constitué un groupement de coopération médico-sociale. Et par cette mise à disposition de moyens, dans le cadre de conventions de groupement de fait, on a pu construire proposer cette offre de service globale. Les volontés étaient vraiment de pouvoir apporter un niveau de qualité supérieur, un niveau de sécurité des prestations et assurer une continuité de service avec l'articulation de l'ensemble des professionnels correspondants et surtout aussi proposer d'instaurer un ascenseur social pour l'ensemble des professionnels qui interviennent au sein de la structure Spassad. Donc le Spassad en fait de ma santé a été créé et autorisé conjointement par l'Agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais et le Conseil général du Nord en août 2011. Donc ça fait 3 ans que nous apportons ce service avec une montée en charge. Aujourd'hui, prise en charge de 140 personnes. Alors 140, sachant que sur l'année 2014, nous avons déjà pris en charge plus de 260 personnes et avec des activités qui ont évolué sur justement la mise en place de ce service de prévention et de réadaptation à domicile avec l'intervention d'ergothérapeutes et de psychologues. Un secteur d'intervention, alors effectivement, là, de couleur jaune, 9 communes, puisque c'est aussi sur les territoires où étaient déjà présents les membres fondateurs, et sur l'ensemble de la métropole, qui toutefois, voilà, c'est le territoire d'intervention du service d'aide à domicile aujourd'hui, les 123 communes. Donc voilà, aujourd'hui l'offre de ma santé, c'est pouvoir répondre 7 jours sur 7, 365 jours par an, à une articulation de différentes prestations qui vont de l'aide domestique en allant vers l'aide à la personne, la prévention, la réadaptation et la réhabilitation, et les soins de nursing et soins infirmiers. Tout ça s'articule évidemment en lien avec les besoins identifiés. Mais on peut effectivement avoir systématiquement une réponse sur mesure. Comment les choses sont organisées? C'est un GCMS. Donc il y a l'administrateur, il y a une directrice pour l'ensemble des activités. Donc je suis directrice, donc je pilote l'ensemble des activités de soins d'aide, soins de réadaptation, soins de réhabilitation. Et je m'appuie sur une équipe après de professionnels, d'opérationnels, que ce soit dans la coordination ou après sur le terrain, l'ensemble des professionnels ou salariés ou libéraux, kinés éventuellement, ou infirmiers dans le cadre des soins infirmiers. Comment ça fonctionne? En fait, c'est un parcours direct qui va simplifier évidemment la prise de contact et la prise en charge, puisque c'est un numéro unique et une interlocutrice unique qui va se charger d'étudier la demande. Tout est en trajet unique, puisque on a un dossier d'évaluation unique et global, un planning organisé de façon globale aussi et unique, et également un suivi en temps réel, donc via la télégestion, pour l'ensemble des prestations qui sont apportées et également les prestations qui sont apportées par les libéraux. En l'occurrence, les soins infirmiers aujourd'hui, les libéraux vont pouvoir nous donner leurs activités via la télégestion. Donc, Je précise, nous ne sommes pas sur une validation des horaires, mais une validation des actes via le téléphone du domicile. Alors, les facteurs clés de succès de Doma Santé, et en tout cas de l'offre SpaceAd, surtout, pour nous, c'est effectivement cette réponse simplifiée. Hein, pour les clients, une interlocutrice unique, alors, clients élargis aux familles, clients familles ou professionnels et partenaires, bien sûr, l'infirmière coordinatrice qui est contactée via ce numéro d'appel unique, va donc pouvoir analyser l'ensemble des besoins et donc faire cette offre de service globale qui va de la prévention aux soins, à l'accompagnement, via un plan de soins et plan d'aide qui va être évidemment élaboré dans le cadre d'une visite à domicile par une interlocutrice aujourd'hui, qui est une infirmière coordinatrice, qui connaît l'ensemble des évaluations correspondantes pour établir ce plan de soins global. Une planification unique et globale, ce qui permet d'avoir vraiment un visuel cohérent, coordonné. Donc nous avons évidemment un outil qui le permet, que nous avons adapté pour pouvoir l'organiser de la sorte, un système de télégestion et ce suivi également, puisque le quotidien, évidemment, rien n'est statique. Il est important que les clients, les familles puissent s'appuyer sur un professionnel qui sera là pour être réactif. Donc l'infirmière coordinatrice du SpaceAd va être à la disposition, évidemment, et sur le terrain pour apporter toutes les évolutions et les adaptations nécessaires. Les facteurs de succès pour les salariés. Les salariés, donc... Les choses qui ont évolué, en l'occurrence pour les aides-soignantes ou les aides médico-psychologiques, c'est une prise en charge globale de la personne dépendante dans le cadre de son maintien à domicile. C'est-à-dire qu'ils réalisent des soins de nursing, mais également un accompagnement des aides aux actes de la vie quotidienne, ce qui nous semble tout à fait cohérent dans le cadre d'une fonction d'aide-soignante ou d'aide médico-psychologique, et surtout dans le cadre des activités au domicile. C'est en même temps intéressant puisqu'on peut leur proposer des contrats à temps plein, une rémunération forcément plus intéressante. Et c'est une activité professionnelle variée et enrichissante pour le professionnel puisqu'il va pouvoir travailler aussi auprès d'un public tous âges, toute situation de handicap, puisque dans le cadre de nos prises en charge, nous avons aussi bien un public de plus de 60 ans qu'un public de moins de 60 ans dans le cadre de l'équipe spécialisée de prévention et de réadaptation. Les facteurs clés de succès pour la société, c'est effectivement de se positionner comme un acteur majeur dans la prévention de la perte d'autonomie au domicile. Nous sommes le premier SpaceAd, donc c'est une première offre qui a été autorisée donc, sur le département du Nord. C'est une prise en charge globale de soins et d'accompagnement qui est coordonnée pour les personnes de plus en plus dépendantes à domicile et en lien avec les HAD. Et c'est également et surtout aujourd'hui, important d'en parler, des économies d'échelle qui ont été réalisées par l'ensemble des parties correspondantes à ce groupement grâce à la coordination de la mise en œuvre et à la mutualisation des moyens. Moyens humains, moyens matériels. Donc dans le cadre de la loi d'adaptation de la société au vieillissement, effectivement, dans les évolutions du SpaceAd de ma santé en particulier, c'est vraiment un souhait d'avoir une identité unique en tant que SpaceAd, puisqu'aujourd'hui, nous sommes SpaceAd autorisés, mais on s'appuie encore sur des autorisations spécifiques, des budgets spécifiques à chacune des structures qui font partie de ce groupement. Donc ce serait effectivement une opportunité de pouvoir concevoir ce nouveau modèle économique et ce nouveau modèle juridique avec une entité à part entière. Je vous remercie.
Ben voilà, la commande est passée. On ne peut que soutenir, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez déjà des... Peut-être, Cathy, tu voulais peut-être répondre un petit peu à Jean-Pierre Hardy, puis peut-être nous en dire un petit peu plus. Je ne sais pas si vous avez commencé à réfléchir au contenu de ce cahier des charges par rapport à justement aux attentes du secteur. Nous, on les relaie aussi, hein, effectivement, cette attente d'une identité spécifique, d'un modèle économique, ça c'est certain, mais aussi d'un modèle juridique.
En fait, j'avais d'abord une question pour Madame Desfontaines. Est-ce qu'actuellement, donc vous dites, vous faites, comme c'est partout le cas, un budget pour le SIAD que vous envoyez à l'ARS et votre budget pour le SAD, mais est-ce que chacun des financeurs demande à voir le budget de l'autre et il y a, est-ce qu'il y a un partage autour de ça via le GCSMS? Est-ce qu'ils regardent uniquement le budget du GCSMS? Est-ce qu'il y a un début de partage des budgets, même s'ils sont séparés?
Alors, actuellement, non, il n'y a pas eu encore de partage vraiment sur la partie budgétaire, hein, des structures et des activités de soins ou des activités d'aide, d'accompagnement. Plus un regard sur, effectivement, les moyens qui ont été mis en commun pour offrir ce space aid, c'est-à-dire globalement ce qu'on appelait les moyens de coordination, hein, moyens humains, moyens matériels, et voilà, c'est sur cet aspect-là que les choses en sont aujourd'hui, mais on souhaite vivement que vraiment on puisse les faire évoluer sur cet axe-là avec l'ARS et le Conseil général.
Et la possibilité éventuellement, du coup moi j'ai une question, d'avoir des financements complémentaires via la conférence des financeurs. Comment c'est accueilli, vous, en tant que gestionnaire de terrain? Est-ce que vous y voyez une opportunité? Est-ce que pour vous c'est nécessaire? Est-ce que vous l'aviez, vous projetez là-dedans?
Alors, dans le cadre du Space Aid de ma santé, donc comme je le précisais, on a ce qu'on a appelé une équipe spécialisée de prévention et de réadaptation à domicile, avec ergothérapeute, psychologue. C'est vrai qu'on est sur ce qu'on appelle un service de soins, mais à titre expérimental. Voilà, donc ce serait effectivement une opportunité de pouvoir offrir un service pérenne dans le cadre d'un Space Aid avec 2P.
Sur le cadrage du cahier des charges, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup plus d'avancées que ce que j'ai pu dire dans mon propos tout à l'heure, à savoir que il faudra mettre sur la table le sujet, bien sûr, des financements. Donc, la question de la dotation sur la partie aide, la partie soins, et puis ce qui avait été une demande portée, c'est-à-dire est-ce qu'on va vraiment jusqu'à un budget unique? Et voilà, moi j'avais participé aux travaux en tant que gestionnaire avant, et j'ai été tout à fait partie prenante d'avancer sur ce budget unique, parce que je pense qu'effectivement c'est un frein réel qu'il faudra bien à un moment donné dépasser. Même si j'entends que ça peut très bien se passer dans le cadre d'un CEPOM, un budget unique avec différents financeurs, c'est pas quand même toujours évident à porter, et donc on a un certain nombre quand même de recommandations qui nous disent ne recréez pas des financements multipartites, parce que c'est aussi source de complexité. Donc bon, ça sera à poser. Je l'ai dit, la question de la taille critique. Alors c'est vrai que parfois quand on dit ça, on nous dit, mais en fait, vous faites juste l'apologie des gros services, des grosses machines, etc. Et c'est pas non plus la réalité que de parfois ce qui se passe bien sur le territoire. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on entend. Et à la fois, je pense quand même, et l'exemple de Doma Santé qui montre à un moment donné, et d'ailleurs, je pense sans perdre une notion de proximité qui est complètement préservée, mais qui montre une capacité de structure et de pouvoir porter des projets qui, à un moment donné, il faut quand même être réaliste, ne peuvent pas être portés sur des microstructures, malgré parfois toute la motivation et l'implication de responsables de secteur qui font énormément de choses dans des petites structures. C'est pas nier cette réalité, mais il faudra quand même, je pense, vraiment intégrer cette question-là. Et puis, un peu la réponse expérimentation versus poser un cadre généralisé qui ne sera jamais gravé dans le marbre, parce que de toute façon c'est le cas de tous les dispositifs. Effectivement, je suis assez d'accord que l'expérimentation a pris dans ce qui peut être interprété par le secteur un peu de plomb dans l'aile, parce qu'il y en a eu beaucoup, et que ça peut effectivement faire peur à des acteurs sur le fait qu'il n'y aura pas de continuité derrière et qu'on ne s'engage pas. Donc voilà, après là c'est plus une appréciation personnelle qu'un message du secrétariat d'État.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Madame.
Bonjour, Laurence Manzano, je représente le CODES, cours d'esthétique à option humanitaire et sociale, titre RNCP. Donc nous sommes des esthéticiennes qui sont formées à travailler spécifiquement dans des équipes pluridisciplinaires et auprès des personnes fragilisées physiquement, socialement, psychiquement. Ça va des prisons, en cancérologie. D'ailleurs, on a un partenariat avec la Ligue contre le cancer. Et alors j'entends coordination donc avec les sommets, les financeurs. Et moi, j'avais une question, en fait, avec la comment on se coordonne, comment on fait nos transmissions auprès de l'infirmière coordinatrice. Parce que est-ce que ça fonctionne Moi, je travaille au CASVP Paris en EHPAD. Est-ce qu'on a un logiciel comme Titan ou autre où on peut tous se connecter, avoir des informations, prendre les informations et pouvoir aussi nous transmettre. Là, c'est très technique. Hein. Voilà. Et voir si vous connaissiez déjà la socio-esthétique et savoir comment vous le pensez et dans quelle grille ça rentre. Est-ce que c'est le soin? Est-ce que c'est l'aide à la personne? Est-ce que... Voilà. Merci.
D'accord. Alors, dans le cadre de la communication, de la transmission, qu'elle soit ascendante ou descendante, parce qu'effectivement, elle est importante pour l'ensemble des équipes, que ce soit les équipes de coordination, les équipes de terrain, on a effectivement un logiciel qui est partagé, où on a une connexion à distance sur un serveur. Donc, on est tous en temps réel, on a toutes les informations à disposition, évidemment via des codes d'accès sécurisés, mais voilà, c'est ça, et je pense qu'effectivement, pour faire un lien avec la taille des structures qui semblent peut-être mieux adaptées aussi sur ce type d'offres et puis de développement de cette activité, le SPACED a été créé donc avec un service d'aide à domicile qui aujourd'hui donc intervient sur 123 communes auprès de 4500 personnes avec 750 salariés. Donc forcément, on est sur une structure qui a plus de 50 ans d'existence en même temps, donc une expérience, une expertise, qui a des moyens qui permettent, et le SPACED qui a fait sa force en termes de prise en charge et de réponse globale, voilà, très qualitative et très opérationnelle rapidement, c'est de s'appuyer sur les moyens logistiques qui avaient été mis en place déjà par la maison de l'aide à domicile. Donc ce logiciel, effectivement, permet d'avoir l'ensemble des données à disposition. On a également, via Internet, un accès sécurisé qui est mis à disposition des salariés, des clients, des partenaires, de manière à ce qu'ils puissent connaître aussi un certain nombre d'informations. Un planning, par exemple, de prestations prévues, un planning de prestations réalisées via la télégestion aussi, qui est effectué, de manière à ce que tout le monde puisse avoir, enfin, évidemment, les personnes dédiées hein, à la personne prise en charge, l'information en temps réel. Maintenant, par rapport à votre activité, aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas un professionnel socio-esthéticien au sein de l'équipe. Ce sont des activités, je pense qu'effectivement, qui globalement peuvent tout à fait répondre à l'accompagnement, l'aide. C'est une forme de soin, c'est prendre soin de la personne. C'est voilà, donc on est effectivement dans ce type de réponse tout à fait aussi globale dans la prise en charge de la personne. On sait aussi de toute façon, et ça, on le véhicule aussi à l'ensemble des professionnels, qu'ils soient d'activités plus de soins ou d'activités d'aide, que leurs prestations, c'est 50% de leurs prestations de l'acte technique, mais 50% de l'acte relationnel, de communication, d'écoute. Voilà, donc on est quand même un peu dans cet accompagnement, mais bien sûr, après, vous avez voilà, une compétence spécifique dans le cadre de l'esthétique. Voilà, où là, c'est à réfléchir, effectivement, bien sûr.
Bonjour. Alors, une remarque et plusieurs questions qui vont être très techniques. Je me présente. Aurore Rochette de la Fédération Aides à domicile, donc Fédération sur l'aide et le soin à domicile. Donc nous, on est particulièrement sensibles à l'ouverture des travaux sur les SPACED par les pouvoirs publics. Néanmoins, on est d'autant plus sensibles au respect des réalités de terrain, y compris des partenariats déjà existants et des différentes formes existantes au niveau juridique. Donc de ne pas calquer forcément de la fusion, du regroupement nécessaire sous telle ou telle forme juridique. Il faut vraiment que ça s'adapte aux acteurs et aux partenariats qu'ils ont déjà créés. Donc ça, c'était le petit préalable. Après, pour ce qui concerne les questions, alors ça va s'adresser un peu à tous, y compris à Madame de Fontaine. J'ai entendu donc par rapport au SPACED, une question que nous portons aussi en termes de positionnement. C'est la question de l'ouverture des SPACED au SAD agréé. Alors j'ai entendu M. Hardy par rapport au CEPOM, justement, quelle est l'articulation, puisqu'aujourd'hui les SPACED ne sont possibles qu'entre SAD autorisé et SIAD. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Quelle articulation avec les SAD CEPOMisés, comme vous dites? Après, la question de travailler sur les métiers, quel est le lien? Est-ce qu'il sera fait un travail sur la compétence et les décrets de compétence des infirmières? Est-ce qu'on va là-dessus? Est-ce qu'on va simplement sur une ouverture des métiers d'aide à domicile, justement, sur l'alerte et la prévention? Ou est-ce qu'on va retoucher au bloc de compétences des IDE et donc des AS et donc des aides à domicile? Et dernière question, très technique sur le GCSMS. Donc j'ai entendu que le GCSMS avait été autorisé au titre du SPASAD. La question que je pose, c'est est-ce qu'il y a eu un transfert des autorisations de ses membres ou est-ce qu'il y a un exercice pour le compte de ses membres de cette autorisation-là? Et la question aussi, c'est les critères d'entrée dans ce SPASAD, puisque vous l'avez dit, j'imagine que vous êtes limité par le nombre de places SIAD pour l'entrée dans ce SPASAD, j'imagine.
Je me permets. Je réponds peut-être déjà à votre dernière question. Donc concernant le groupement de coopération médico-sociale qui a été créé donc effectivement avec une autorisation donc conjointe ARS et Conseil général, c'est une autorisation effectivement qui est donnée pour fonctionner en tant que SPASAD, mais chaque entité. On s'appuie sur chaque entité et l'autorisation en propre qu'ils ont d'ailleurs toujours dans leurs activités spécifiques. Puisque si on prend le service d'aide à domicile, aujourd'hui donc, l'autorisation donc, qui a été donnée pour 140 prises en charge, puisque là effectivement on est limité à un nombre de prises en charge en lien avec l'autorisation donnée par l'ARS sur un territoire donné et sur un nombre de places données. De la même manière, donc, on s'appuie sur l'autorisation du SIAD pour les soins de nursing et soins infirmiers et de l'ESPRAD pour les activités de soins de réadaptation. Donc, dans le cadre du groupement, je vous laisse répondre peut-être sur d'autres
points. Sur quelques questions, une précision aujourd'hui pour la refondation et l'expérimentation, elle n'est pas liée au statut agréé autorisé. Non. On passe des CEPOM, il y a des départements comme la Corrèze. Alors en plus, après, certains disent que c'est... Parce qu'il y en a qui sont autorisés mais pas tarifés. Donc on a tous les régimes aujourd'hui. On a autorisé agréé, mais on a autorisé mais pas du tout tarifé, c'est-à-dire tarif libre, sachant que la liberté tarifaire n'oblige pas le Conseil général à s'aligner sur les tarifs fixés librement, puisque ses plans d'aide à lui peuvent être calculés sur d'autres critères que le prix de revient souhaité ou le prix facturé. Donc ça joue effectivement sur la question du ticket modérateur. Alors après, effectivement, le SPASAD, ça nécessite de préciser les choses législativement. Dans le sens, aujourd'hui, le SIAD est forcément autorisé, alors que le SAD ne l'est pas forcément. Et sur la prévention, tout le monde en fait, et parfois personne n'en fait, puisque tout le monde en fait, quoi. Donc, sans doute, est-ce que c'est dans l'article 34 qu'il faudra préciser? Nous, on pense que le CEPOM peut prévoir ça. En disant, le CEPOM vaut autorisation, même si, initialement, il n'y avait pas d'autorisation, il y avait un agrément, pour éviter, effectivement, les faux appels à projets et donc le CEPOM en soi, et on pense que le CEPOM effectivement peut, dans le cas d'un contrat avec les partenaires du CEPOM, ARS, Conseil Général, CARSAT aussi, hein, sur le volet prévention, peut prévoir des recompositions de l'offre. Il ne faut pas qu'on reste dans un CEPOM qui additionne l'existant. On peut dans le CEPOM dire effectivement on revoit les territoires. C'est nous notre proposition. C'est-à-dire de fait, dans le contrat, l'ARS, comme le département dit, voilà, on s'y insère pas, mais c'est pas simplement additionner deux existants qui ont été construits à des périodes différentes et avec des usages différents. On est sur une logique de dire, voilà, ça sera sur tel territoire et les files actives peuvent effectivement évoluer à partir du moment où dans les deux forfaits globales ou les trois forfaits soins, forfaits dépendance, etc., on est à ce moment-là, si la structure peut financer avec ce forfait-là une file active plus importante, tant mieux. S'il y a d'autres aides qui interviennent, alors pourquoi pas effectivement dans un contrat dire il faut une société esthéticienne, effectivement le travail sur l'image de soi, sans doute effectivement, ça pose la question des plans d'aide, hein, pour être dans mes mauvaises plaisanteries, parfois j'ai l'impression que dans les plans d'aide APA, c'est le côté aide à la vie quotidienne. Donc c'est les lever, le coucher, à un certain moment, c'est pas censé être les SAD, les SAP, services d'aide à la personne, qui font le jardin et l'informatique. dans les paniers à faire évoluer. Peut-être que demain, si la personne n'a pas accès à sa Wi-Fi, ça sera plus grave qu'une heure de toilette en plus ou en moins. Et aujourd'hui, pour une personne âgée qui est sortie du lit, mise dans un fauteuil et mise dans son salon, avoir vu sur un jardin propre, c'est peut-être plus important que d'avoir encore une heure de toilette, parce que les débats sur les toilettes, je les ai connus dans la réforme des EHPAD. On pourrait en parler à l'infini sur... avec des douches, pas douches, où c'est génial, tous les jours une douche, la douceur de l'eau, la chaleur, etc. Et certains disent arrêter pour des personnes qui, par rapport à la nudité et se déshabiller, c'est une souffrance. Et ça dépend des régions, puisque dans le Nord, on nous disait, on a une population d'anciens mineurs, la douche collective au grand crin avec les femmes... Non, dans le sens, on a des cultures différentes. Non, mais c'est pas rien dans des milieux X. Là, on est encore dans. On fait pas uniquement qu'on travaille sur ça de la finance, puisque on m'accuse de dérives parfois financières. On fait aussi un peu d'anthropologie et d'ethnologie pour comprendre un peu comment les choses sont. Donc, effectivement, est-ce que j'ai conscience, sans faire de démagogie, que quelqu'un qui est bien habillé, bien propre, c'est plus important peut-être que certains actes, y compris par rapport à l'estime de soi et la sortie de l'isolement. La personne parfois ne reçoit pas des gens ou se déplace pas alors qu'elle pourrait le faire parce que elle a dit dans quel état qu'est-ce qu'on va penser de moi. Donc et ça sera peut-être plus important dans les années qui viennent. Ce rapport, autrement effectivement sur, on pourrait vous proposer techniquement il faut un seul budget ou sinon c'est un EPRD qui distingue bien mais qui a des porosités. Parce que la porosité, elle est sur les charges communes. Effectivement, qu'on donne X millions d'euros, on va s'assurer qu'il y a X heures de fait, etc., que le SIAD, etc. Un des problèmes du SPASAD qu'il faut correct, c'est la participation, parce qu'il y a participation sur les heures d'aide à la vie quotidienne. Il n'y a pas participation de soins, même si on peut jouer effectivement sur... notamment les sorties d'hospitalisation, le fait du retard qui peut être négocié, en disant, si on veut transiter sur de l'aide à domicile, il faut peut-être quelques temps que le service, que la participation soit dans les charges communes, quoi.
On va laisser le mot de la fin à Cathy. Ouais.
Donc, du coup, simplement pour Aurore, qui représente ADC à domicile et qui sera partie prenante des travaux sur le cahier des charges, on abordera bien sûr ces questions des compétences. Simplement pour le mot de la fin, tout à fait d'accord à la fois sur cette souplesse qu'il faut qu'on trouve pour prendre en compte les réalités existantes déjà sur les différentes formes de partenariat et pas prôner uniquement la fusion ou le GCSMS. Et à la fois, il faudra quand même qu'on soit vigilant, mais ça sera l'objet d'un cahier des charges, c'est que si ce cahier des charges définit vraiment une intégration de prestations et un projet commun, faut pas non plus se dire qu'on pourra se dire qu'une convention de partenariat de 3 lignes signée entre 2 acteurs suffira pour dire qu'on est dans ce qu'on veut, à savoir un SPASAD intégré. Donc voilà, il faut être dans le respect de ça et puis porter quand même le projet qui parfois nécessite qu'on bouscule un peu les partenariats existants pour aller un peu plus loin.
Écoutez, merci beaucoup. On va s'arrêter là, avant d'être mis dehors. Merci à tous. Et puis rendez-vous sur le stand de la FEAP si vous voulez prolonger ces discussions.